Ici, on reçoit des gens en très mauvais état. Des jures, il y a eu d'ailleurs des amputations l'année dernière, des femmes enceintes même, qui ont traversé le col dans la neige en petites chaussures. Donc il faut les rhabiller, il faut les sécher, ils n'ont pas bouffé. On fait, nous, du sauvetage. On pourrait dire que c'est du super secours en montagne. L'une de nos motivations, c'est pas de se battre contre une politique d'immigration, etc., etc. C'est tout simplement de porter secours à des personnes en grand danger. On les garde pas ici. Ils restent une nuit, quand ils sont en très très mauvais état, un peu plus longtemps. Mais à Névache, on n'a pas les moyens ni la possibilité de les garder longtemps. Donc après, il faut qu'ils les sortent. Et là, on a des problèmes qui tiennent au fait que, il faut le dire, il nous semble que les services de police et la gendarmerie ne respectent pas toujours la législation. On a plus de la moitié qui sont des jeunes, des enfants, déclarés mineurs plutôt. Bon, alors d'abord, les mineurs, là, ils ont tous les droits en matière de demande d'asile, puisque les textes prévoient que même un mineur ayant passé clandestinement la frontière peut demander asile en France. Donc tant qu'un mineur est dans une voiture ici, il est illégal de le prendre et de le reconduire en Italie, comme ça s'est fait souvent.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Disparu durant l'été 2018, Bernard Ligère était un personnage respecté du village de Névache, près de la frontière italienne. Ancien officier d'active, installé dans les Hautes-Alpes à sa retraite, il avait mis en place ces dernières années un réseau d'aide aux migrants tentant de passer en France par le col de l'Échelle. Exactement comme les marins sur les océans, les montagnards ne peuvent en effet pas imaginer ne pas porter secours à des humains mourant de froid dans leurs montagnes. Guides, pompiers, médecins ou simples citoyens, ceux qui recueillent, réchauffent, nourrissent et tentent d'amener à Briançon les réfugiés désireux de demander asile en France, savent qu'ils s'exposent aux tracasseries des forces de police qui traquent les clandestins et les Français, ceux-ci se retrouvant traités comme des passeurs de clandestins. En 2017, Raphaël Kraft, grand reporter dont l'on entend souvent les documentaires sur les ondes de France Culture, se fera lui-même arrêter par la gendarmerie après avoir participé au sauvetage en montagne de 4 mineurs africains, dont 3 Guinéens. Choqué d'apprendre que les policiers les avaient ramenés la nuit même en Italie par le col de l'Échelle, sans prendre en considération leur statut de mineur isolé, Raphaël Kraft va raconter l'histoire et enquêter jusqu'en Guinée pour tenter de comprendre ce qui pousse ces enfants à entreprendre une telle odyssée. Ces reportages sont à écouter comme d'habitude, en ligne sur le site de France Culture, et son dernier livre, Les enfants de la Clarée, vient de paraître aux éditions Marchiali. Bonsoir Raphaël Kraft.
Bonsoir Kathleen Evin.
On s'était parlé à ce même micro en 2017 pour votre précédent livre Passeur, qui se déroulait là un peu plus au sud dans les Alpes, toujours à la frontière italienne. Et là, vous êtes parti en novembre 2017 à Névache et on sent bien dans vos reportages sonores et dans ce livre à quel point vous avez été touché par la qualité humaine des gens que vous avez rencontrés à Névache et qui patrouillent en montagne pour tenter de sauver la vie de ceux qui passent en France.
C'est vrai, je suis arrivé donc au début du mois de novembre 2017 dans la vallée de la Clarée, à Briançon. Alors comme on le fait quand on part en reportage, on glane quelques contacts. À l'époque, c'était compliqué parce qu'il y avait eu très peu d'articles sur cette voie de passage qui a commencé à enfler, entre guillemets, à partir de l'été 2017. Il y avait eu un article dans le journal La Croix et un article dans Mediapart. Et je me suis dit en partant là-bas que l'hiver arrivant, les gens allaient continuer à passer. Et de fil en aiguille, de coup de fil en coup de fil, je suis tombé sur ce fameux Bernard dont j'avais lu le témoignage dans l'article de La Croix, et je me suis dit, ah, cet homme-là, il faut absolument que je le rencontre. Tant et si bien que, arrivé à Briançon, je suis tout de suite allé dans la vallée de la Clarée, je suis allé le voir, Et deux ou trois jours plus tard, il m'accueillait à son domicile, dans son chalet, dans une des chambres dans lesquelles il a accueilli tant et tant de jeunes Africains qui sont passés par le col de l'échelle.
Alors, au contraire, par exemple, de Cédric Herrou, qui, lui, est un militant et qui porte une sorte de parole politique, ce qui est très frappant dans les portraits des hommes, Bernard Ligère, mais d'autres, Jean-Louis Chevalier, par exemple, qui a été maire de Névage. Quand vous parlez de ces gens-là, il ne s'agit pas du tout de prise de position politique, il s'agit de se comporter en être humain. Ils ont une parole de solidarité.
Alors, Cédric Herrou, si je puis me permettre, se défend toujours d'être un militant lorsqu'il est interpellé de la sorte. Alors c'est vrai qu'il a, il vit dans la montagne, il fait de l'agriculture, donc il peut être facilement catalogué. Mais c'est vrai que entre la sociologie, pourrait-on dire, du Briançonnais et celle de la vallée de la Roya, c'est effectivement complètement différent. Tout autour de Cédric Herrou, il y a un certain nombre de personnes qui se battent, qui portent une parole politique, en plus d'apporter une aide aux personnes qui passent la frontière dans la vallée de la Roya. À Briançon, au début, parce qu'aujourd'hui, une parole politique est portée également à Briançon. C'est vrai qu'en particulier dans le village de Névache, il y avait davantage, comme vous le disiez en introduction de cette émission, quelque chose de montagnard qui est comparable à ces marins, je pense à SOS Méditerranée, en Méditerranée centrale, qui n'ont pour but que d'aller sauver des vies dans la montagne. Cependant, Briançon voit passer des milliers de personnes depuis 2017 et au fil des mois, au fil des années, il y a une parole politique qui s'est construite, notamment autour de l'association Tous Migrants, avec en son sein, effectivement, des gens d'origine très diverses, ça peut être des cathos sociaux, voire des cathos tradis, des gens de droite, beaucoup de gens de gauche, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre ce qui se passe dans la Roya. D'autre part, dans la Roya, on est dans les Alpes-Maritimes, donc on est, c'est une population qui est très polarisée. Vous avez bien sûr une sociologie politique dans les Alpes-Maritimes où il y a les anciens pieds noirs, le Front National fait beaucoup de voix, vous avez des personnalités comme Éric Ciotti, pour ne citer que lui, et donc il y a une grosse polarisation, et notamment dans la vallée de la Roya. Et c'est vrai que à Névache c'est différent, mais je me permets de pointer un sondage qui a été réalisé par le journal Le Monde il y a quelques années sur les catholiques, et on se rendait compte que la ligne de fracture, elle n'était pas droite gauche chez les catholiques, mais véritablement sur l'accueil, et que de part et d'autre de cette ligne sur l'accueil ou non des réfugiés, on allait trouver de part et d'autre des cathos traditionnels, des cathos sociaux, et que un cathos social pouvait refuser la venue de réfugiés.
Raphaël Kraft, on va entendre tout au long de cette émission des extraits de ce reportage que vous avez tourné donc en novembre 2017, lorsque vous avez fait des maraudes avec les habitants de Névache dans la montagne. Et on va passer tout de suite un premier extrait lorsque vous arrivez avec Alain et Cédric dans une cabane qui est aménagée pour aider ces gens qui traversent frigorifiés.
Ici, on est donc au col de l'échelle. On est dans une cabane de berger qui n'est pas utilisée l'hiver, donc puisqu'il n'y a pas de troupeau l'hiver. Et donc, on l'a aménagé, c'est un grand mot, mais on y laisse un petit peu du matériel, des couvertures, des chaussures pour que les migrants qui arrivent ici et qui ont froid puissent se tenir un peu, se réchauffer un peu. Là, on est, 7-8 novembre, et là, il neige. Pas beaucoup, mais à partir de maintenant, les conditions vont devenir de plus en plus difficiles. On est vraiment là dans une notion de sécurité. On n'est pas dans une notion autre. On a des gens qui peuvent être en danger. Donc nous, on vient ici pour éviter d'avoir des morts, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Voilà.
Votre prénom, peut-être ?
Alain. Alain, accompagnateur en montagne, retraité.
Et vous êtes avec ?
Cédric, accompagnateur en montagne, pas encore à la retraite.
On fait ce que tout homme doit faire, c'est-à-dire aider son prochain. Voilà, c'est simple. Même la loi française nous l'oblige. Hein. Une personne en danger doit être secourue, doit être aidée. Le problème fondamental ici, c'est que les personnes qui arrivent d'Italie ne savent pas qu'elles vont être confrontées à un milieu très difficile, très froid. L'hiver passé, on a passé une nuit ici avec du moins 24 degrés. On peut avoir des chutes de neige qui dépassent les 50-60 cm de neige. Donc vraiment des conditions qui sont difficiles, ça peut vraiment devenir extrêmement dangereux.
Raphaël Kraft, non seulement ça devient dangereux, mais il y a eu des accidents, des amputations, des morts sans doute, parce que les réfugiés qui passent par ce col très haut, quand ils voient la police qui patrouille sur ces chemins, ils se déportent, ils risquent de tomber dans des ravins, et il y a eu déjà des accidents.
Oui, alors il y a eu 4 morts, plusieurs personnes qui ont été amputées. C'est un classique lorsqu'on s'intéresse aux questions migratoires, lorsque l'on érige un mur quelque part, effectivement, on va le contourner. Alors ce mur-là, en l'occurrence, ce sont les Alpes occidentales. Ce sont des montagnes que l'on voit, que les réfugiés ou exilés voient depuis la plaine du Pô. Lorsqu'il y a une surveillance policière, effectivement, ils tentent de contourner et effectivement prennent des chemins beaucoup plus difficiles. D'autant que le col de l'Échelle a une physionomie, une topographie qui est assez difficile. On a une route en lacet qui monte jusqu'à 2 tunnels. C'est le passage difficile, là, parce que souvent les policiers se mettent en faction à cet endroit. Et pour éviter les 2 tunnels, on va contourner et puis on risque de tomber dans le précipice. Et puis aussi, il faut savoir que lorsqu'un Africain de l'Ouest débarque face à la chaîne des Alpes, il n'a aucune connaissance du milieu montagnard. Il n'a pas conscience de ce que représente la montagne, c'est-à-dire le froid, la fatigue, la neige, bien sûr. Et part complètement inéquipé, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui, ou pas toujours jeunes, qui traversent en basket, qui ne prennent pas forcément de quoi manger ou de quoi boire, et ne connaissant pas le lieu, se retrouvent perdus. En plus, c'est un endroit où la frontière a été déplacée en 1947. Après le second conflit mondial entre la France et l'Italie, la France a gagné, a gratté des territoires italiens, et donc lorsqu'on arrive en bas du col de l'Échelle, on est en France, sauf que il faut passer le col, et souvent les gens partent à droite et se retrouvent dans la vallée étroite, qui est une vallée anciennement italienne, mais qui est un cul-de-sac. C'est-à-dire que si on veut aller à Paris, il faut pas passer par la vallée étroite. Et beaucoup de gens passent par cette vallée et se retrouvent à marcher 16, 18, parfois 24, 36 heures, se retrouvent dans le Mont-Tabor, et là c'est extrêmement difficile, oui. Donc il y a des campagnes d'information qui sont faites, notamment à la gare de Bardonecchia, pour renseigner, informer, alerter les exilés sur cette voie de passage. Cette voie de passage qui a été vraiment abandonnée aujourd'hui par les exilés qui passent plutôt par le col de Montgenèvre, qui est plus facile, mais aussi difficile.
Alors en novembre 2017, on l'entendait, il commençait à neiger, il faisait froid, et vous êtes parti en maraude avec ces gens qui s'occupent de secourir ceux qui tentent de passer la frontière, et vous avez trouvé ce soir-là, Raphaël Kraft, dans la montagne, 4 jeunes garçons qui s'annoncent comme des mineurs. Ce sont des Africains, 3 d'entre eux viennent de Guinée. Vous les réchauffez avec Cédric et Alain, vous leur donnez à boire, vous leur donnez des vêtements chauds, et il faut les descendre à Briançon, au centre d'accueil, et c'est sur la route que vous allez vous faire arrêter par la gendarmerie.
Il est susceptible d'être relevé à votre encontre une aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour de personnes en situation irrégulière, ce qui est un délit pénal. D'accord ? On vous invite à nous suivre librement dans les locaux de la brigade de Briançon afin d'être entendu sur les faits concernant les 4 personnes qui se trouvaient dans les 2 véhicules qui ont donc aidé des personnes en situation irrégulière à circuler sur le territoire national. Les personnes qui sont en situation irrégulière vont rester avec mes collègues qui vont faire les constatations, d'accord, d'usage, et qui feront ce qui s'impose, d'accord ?
C'est quoi ce qui s'impose ? Pouvez-vous me le dire ?
Je ne sais pas, je m'en occupe pas.
D'accord.
Moi, je m'occupe des personnes qui font l'aide à l'entrée ou au séjour en situation régulière.
D'accord, mais ce sont des personnes irrégulières lorsqu'ils ne sont pas mineurs. Parce que lorsqu'ils sont mineurs, il y a deux choses qui s'appliquent. C'est d'abord leur minorité et ensuite le fait qu'ils soient étrangers. C'est deux choses et il y a leur droit par rapport à ça. Ce sont donc des enfants qui sont en danger quand ils sont à la nuit dehors.
Ce soir, je ne vais pas faire un débat de pénaliste avec vous.
Non, bien sûr.
D'accord, j'applique le code de procédure pénale.
Bien sûr.
D'accord, vous êtes conscient qu'il est susceptible d'être relevé à votre encontre un délit pénal. Vous êtes conscient ou pas ?
Je suis conscient surtout
qu'on... Vous acceptez d'être entendu librement sur les faits ?
Je suis conscient qu'effectivement, je suis allé chercher des enfants qui se déclarent mineurs et dont je n'ai pas la possibilité de savoir s'ils sont mineurs.
Vous êtes allé les chercher, vous aviez rendez-vous avec eux ?
Pas du tout, pas du tout.
Je
les ai pris en route parce que, si vous voulez, quand je trouve des enfants sur la route qui sont mineurs...
Je comprends pas, c'est votre terme, je suis allé chercher.
Je vous explique que quand je trouve des enfants mineurs sur la route...
Non, mais si vous avez un contact avec eux, il faut me le dire.
Je n'ai pas de contact.
Alors, d'accord. Bon, on éclaircira tout à la brigade,
pas de soucis,
par audition.
D'accord, monsieur,
vous descendez. Raphaël Kraft, on entend une petite partie de cet échange qui a duré un certain temps et qui, ça me retourne l'estomac parce que se faire arrêter par des gendarmes quand on vient de sauver la vie, en tout cas d'aider des gens qui sont en grande difficulté, et se faire traiter d'aide à l'entrée, alors qu'il ne s'agit pas d'aide à l'entrée, il s'agit d'aide simplement. C'est vrai que ensuite vous êtes retrouvé à la gendarmerie, vous étiez avec une consœur belge.
Suisse.
Mmh. Et tout le monde a été interrogé comme si vous étiez en fait des passeurs payés pour faire rentrer des clandestins en France.
Oui, c'est ça. Ça fait drôle de réécouter cet échange qui était assez surréaliste parce que. Bon, moi, j'ai produit mes documents de travail, cartes de presse, etc. Malgré cela, j'étais donc susceptible de voir relever contre moi un délit pénal. Mais j'ai pu enregistrer toute la conversation, toute l'arrestation, et je trouvais ça surréaliste, c'est-à-dire de, j'étais suspect, accusé, et puis j'enregistrais. Mais oui, mais la police, la gendarmerie, la police aux frontières jouent sur cette ambiguïté qui des accords de Schengen et aussi des accords de Chambéry entre la France et l'Italie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que à 20 km à l'intérieur du territoire français, dans cette zone, toute personne qui n'a pas ses papiers peut être arrêtée et non pas reconduite à la frontière, mais être notifiée d'un refus d'entrée. C'est-à-dire que un Africain de l'Ouest qui est à Briançon ou qui est à Névache, il est en territoire français, mais il est à moins de 20 km de la frontière. Donc on n'est pas obligé, enfin les forces de l'ordre ne sont pas obligées, selon Schengen, selon les accords de Chambéry, d'entrer dans toute une procédure de reconduite à la frontière qui implique un passage devant le juge, etc., de tout un tas de formalités, et notifie ces personnes d'un refus d'entrée, c'est-à-dire qu'il les ramène à la borne frontière, et en l'occurrence, ces quatre jeunes se sont retrouvés ramenés dans la nuit. Et, cependant, les personnes qui font des maraudes, Bernard Ligère, se retrouvent dans des situations où ils prennent des gens en stop. Et effectivement, lorsque vous descendez de Névache jusqu'à Briançon et que vous voyez quatre adolescents dépenaillés, tremblants de froid, vous les prenez dans votre voiture. Et lorsque vous faites arrêter un barrage, eh bien, il est très facile de vous accuser d'être effectivement un passeur. Je voudrais dire que toute personne, et pas seulement mineure, contrairement à ce que disait Bernard en début de cette émission, toute personne se présentant à la frontière peut demander l'asile.
Et d'ailleurs, justement, cette ambiguïté des 20 kilomètres par rapport au texte de loi habituel, elle est relevée par Maître François Sureau, un spécialiste de l'accueil des migrants.
L'origine de l'imposture, on la voit fonctionner dans le discours préfectoral. Il dit au fond, il y a un droit... S'ils franchissent la frontière en fraude, ils sont en situation irrégulière, on les reconduit dehors. Ça n'est pas le droit. Le droit, c'est que toute personne qui demande l'asile a droit de voir sa demande examinée sur le territoire de la République, a fortiori lorsqu'il est mineur. Tous les gens qui demandent l'asile sont en situation, par hypothèse, irrégulière, puisque la France n'autorise pas les visas asilaires, ne permet à personne de rentrer pour demander l'asile de manière régulière, et qu'au surplus, quand vous avez été persécuté dans le pays d'origine, la première chose que vous faites au moment de vous en aller ne consiste pas à vous précipiter à la police pour demander un passeport en bonne et due forme. Tout le monde sait, depuis la création de la Convention de Genève, depuis l'époque du passeport Nansen, depuis les républicains espagnols, depuis les arméniens, depuis les juifs, depuis l'entre-deux-guerres, tout le monde sait que quelqu'un qui arrive pour demander l'asile est nécessairement en situation irrégulière. Si on excipe de cette situation irrégulière pour lui interdire de demander l'asile en le reconduisant à la frontière, on viole à la fois la Constitution et la Convention de Genève. C'est une chose que rappelle la quasi-totalité des juridictions françaises depuis près d'une dizaine d'années. Il a fallu que la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme intervienne pour interdire à la France de renvoyer des gens jusqu'en Grèce parce que la Grèce ne traitait pas sérieusement les demandes d'asile. La France ne traite pas davantage sérieusement les demandes d'asile lorsqu'elle reconduit des gens, y compris des mineurs, en pleine nuit, dans la montagne, en leur disant « marche devant toi, là-bas, c'est l'Italie ».
Raphaël Kraft, ce que souligne François Sureau, c'est que et la tradition et les textes les plus sacrés, s'opposent à ces traitements assez inhumains des gens qui tentent de rentrer en France. Et pourtant, vous avez diffusé vos reportages, la presse s'était émue de vous voir arrêté ainsi que votre consoeur, il y avait eu un petit tapage autour de ça, et au fond, les choses continuent.
Oui. Enfin, c'est pas qu'à la frontière, c'est-à-dire que on a vu les tentes lacérées à Calais ces dernières semaines. Là, les dernières images diffusées sur les réseaux sociaux, ce sont les pelleteuses qui attrapent les tentes. Je pense aussi aux personnes qui sont dans la rue. Il se trouve que les personnes qui s'intéressent aux questions migratoires, que ce soit les journalistes, que ce soit les chercheurs, sociologues, anthropologues, constatent qu'effectivement, il y a une politique de dissuasion, une politique d'influence qui dit, si vous venez en France, ça va se passer comme ça. Alors comment ça se passe? C'est on vous laissera la nuit sans ressources au milieu de la montagne. On vous renverra en Italie à une heure tardive afin que vous soyez obligé de dormir dehors en plein hiver. On ne va pas vous loger. On va détruire vos tentes. On va vous asperger de gaz lacrymogène. On va souiller votre eau de gaz lacrymogène. Tout ceci est véritablement une politique qui est destinée aux personnes qui voudraient venir en France, mais on constate que ça ne fonctionne pas. On constate aussi que les gens qui viennent en France ne viennent pas forcément pour des raisons de sécurité sociale ou de protection. Ils viennent parce que le pays est plus dynamique que l'Italie. Et souvent, ils ne viennent en France que pour passer vers des pays plus dynamiques économiquement. Je pense à l'Europe du Nord, à l'Allemagne ou à l'Angleterre. Et cette politique qui est conduite depuis des années, je ne suis pas un historien des migrations, mais on pourrait dire que depuis la fermeture des frontières, donc sous Giscard dans les années 70, et puis ensuite de façon plus exacerbée avec Sangatte au début des années 2000, c'est une politique qui se perpétue avec des gouvernements de gauche ou de droite, et qui a atteint un paroxysme depuis que le président Macron a été élu, où nous, observateurs, sommes stupéfaits par les manquements à la loi qui sont perpétrés par les forces de l'ordre quasi journellement.
L'humeur vagabonde sur France Inter. Oh,
Aviez-vous lorsque vous êtes parti?
J'avais l'âge de 19 ans.
D'accord. Et aujourd'hui, vous avez quel âge?
Aujourd'hui, j'en ai 21 ans.
D'accord. Pourquoi vous avez décidé de rentrer volontairement en Guinée?
Non, je n'ai pas décidé de rentrer volontairement en Guinée.
Ah bon?
Oui.
C'est-à-dire?
C'est parce que on m'a kidnappé à la maison. On m'a envoyé à la prison. J'ai essayé de fuir, je n'ai pas pu. C'est en ce temps que je suis enregistré, on m'a rapatrié chez moi.
Ah, mais parce que vous ne vouliez pas rentrer?
Je ne voulais pas.
Parce que l'OIM dit que ce ne sont que des départs volontaires.
Et pourtant, les Libyens ne font pas ça. Ce n'est pas volontaire que les Libyens font. Et ils vous forcent.
Ils vous forcent à rentrer dans l'avion de l'OIM?
Oui, ils vous forcent à enregistrer. Parce qu'on vous kidnappe. On vous met dans des prisons, au nom des déportements. Dans des prisons, on vous enferme là-bas. On vous dit de vous enregistrer obligatoire. Tu vas t'enregistrer obligatoire pour rentrer chez toi.
D'accord. Et maintenant, vous avez envie de repartir?
Non, pour le moment, je n'ai pas envie de sortir pour le moment.
Vous avez besoin de vous reposer, j'imagine?
Oui, je voudrais me reposer un peu.
Et après?
Si je gagne du boulot chez moi, je reste. Si je ne gagne pas, je prends la route encore.
Raphaël Kraft, après la première partie de votre reportage à Névache et dans la montagne, où vous aviez croisé la route de ces quatre jeunes Africains de l'Ouest, dont trois Guinéens, vous avez voulu tenter de comprendre pourquoi des jeunes, des mineurs guinéens, s'embarquaient pour un voyage aussi terrifiant. Pourquoi voulaient-ils quitter la Guinée ? Donc vous êtes parti là-bas, et là vous êtes à l'aéroport où vous avez rencontré ce jeune homme qui parlait, là, Hassan Ba, qui avait été en ramené chez lui de force alors qu'il était arrivé en Libye. Alors on sait très bien comment ça se passe en Libye, les accords qui sont passés avec les Libyens, c'est-à-dire avec les mafias libyennes qui prennent ceux qui essayent de traverser et qui prennent de l'argent soit pour les remettre dans les camps, soit pour les renvoyer chez eux. Et vous avez enquêté sur le rôle d'une organisation internationale très intéressante qui s'appelle l'Organisation internationale des migrations, l'OMI. L'OIM, pardon, qui a été créé en 1951 et qui maintenant bénéficie d'un budget assez conséquent de la part des États européens et qui est là pour ramener les gens chez eux.
Alors oui, c'est parler en deux minutes de l'OIM, c'est assez compliqué, mais pour faire simple, effectivement, l'OIM est créé en 1951 pour faire contrepoids au HCR, qui est soupçonné par les Américains d'être à la solde des communistes. L'OIM a pour fonction d'organiser les migrations. Elle a notamment eu pour premier rôle de ramener depuis l'Europe beaucoup de réfugiés suite à la Seconde Guerre mondiale vers les États-Unis, vers le Canada, l'Amérique latine, etc. Et elle a été affiliée à l'ONU depuis quelques années seulement et a un rôle particulier puisqu'elle surtout elle sert les intérêts de ses principaux bailleurs, donc les États-Unis pour ce qui concerne l'Amérique centrale et l'Europe pour ce qui concerne l'Afrique. Et donc l'OIM a plusieurs fonctions, à la fois de renforcer les capacités des frontières intra-africaines, à la fois d'organiser donc les retours volontaires, enfin les retours dits volontaires, c'est-à-dire que beaucoup de vols sont organisés, que ce soit depuis le Maroc ou depuis la Libye principalement, pour les personnes qui ont été enfermées par les autorités libyennes, pour les ramener au pays. Alors ce peut être la Guinée, ce peut être le Sénégal, la Côte d'Ivoire, beaucoup le Nigeria. Et l'OIM communique effectivement sur des retours volontaires, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que ce sont des jeunes dont on rend visite dans des prisons. On leur dit, bah voilà, si tu rentres en Guinée, on te donnera 50 euros et puis un téléphone portable avec une puce pour que tu puisses voir tes parents, beaucoup de promesses d'emploi. L'OIM travaille beaucoup sur la création d'emplois dans les pays d'origine. Alors avec un vocabulaire très très libéral, très technique, mais en fait les emplois c'est surtout pour conduire des motos taxis. Et oui, là j'étais avec ces jeunes à l'aéroport de Gbessia, donc l'aéroport de Conakry, pour voir si effectivement ces retours volontaires, enfin enquêter sur ces retours volontaires qui, la première personne que j'ai interviewée m'a dit, les services consulaires de mon pays sont venus me voir et on m'a fait comprendre que j'avais pas trop le choix. Et effectivement, beaucoup de ces jeunes qui reviennent en Guinée, ont surtout envie de repartir. Après, au-delà de tout ça, il y a tout un travail de propagande qui est organisé par l'OIM et financé par l'Union européenne sur pour inciter cette jeunesse à rester chez elle. Alors ça peut être ces campagnes de propagande sont orchestrées notamment par la cooptation du monde des arts et de la culture. Ainsi, les rappeurs les plus célèbres de Guinée se sont vus financer des chansons qui prônent la sédentarité, qui alertent sur les dangers de la route. Sauf que cette même organisation qui alerte sur les dangers de la route est la principale responsable des dangers de la route puisque l'installation de postes frontières, la biométrie aux postes frontières, le lobbying auprès des parlementaires nigériens, nigérians, ivoiriens, guinéens pour durcir les lois peut-être que les auditeurs de France Inter ont entendu qu'il y a quelques années, il y a eu une criminalisation des passeurs au Niger. Eh bien, c'est le fait d'un lobbying de l'OIM auprès des parlementaires pour rendre plus compliqué le passage de ces dites frontières, des frontières qui sont millénaires.
Alors, on entendait d'ailleurs dans le témoignage d'Hassan Bah que vous avez enregistré, Raphaël Kraft, ce qu'il disait que, au fond, s'il avait un emploi, ben, il resterait, mais s'il ne trouvait pas d'emploi qui lui convienne, il reprendrait la route. Alors, vous avez voulu savoir pourquoi dans ce pays où il y a des écoles, pourquoi ces jeunes ne trouvent pas à se former correctement. Vous êtes allé voir un anthropologue, Alpha Amadou Banobari, qui lui critique énormément la façon dont ces fonds européens sont distribués dans son pays, la Guinée.
Que l'Europe mette son argent pour se protéger parce qu'elle ne veut plus de migrants, je peux comprendre. Qu'elle mette des lois pour durcir le processus pour accéder au territoire européen, je pourrais dire, du point de vue du contribuable européen, c'est légitime. En tout cas, c'est défendable. Sauf que si l'on veut limiter la migration, à mon avis, on utilise énormément d'argent dans la périphérie de ce qui pourrait limiter la migration et très peu dans l'essence. Regardez la constitution de la migration guinéenne. Pour l'essentiel, les migrants guinéens, à 85%, les données, en tout cas telles que je les possède, indiquent qu'ils viennent du système éducatif. Diplômés ou déscolarisés. Déscolarisés, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné l'école. Est-ce que l'école guinéenne favorise la migration clandestine? Je pense qu'on devrait se poser cette question lorsqu'on a 85%. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'école guinéenne qui pourrait amener ceux qui ont des diplômes ou qui vont à l'école à vouloir tenter? Parce que, après tout, ce ne sont pas les moyens informés. Je pense qu'on se trompe de stratégie. Depuis que l'Union européenne finance la Guinée, il n'y a aucun sou de l'Union européenne dans le secteur de l'éducation.
Et voilà, l'Union européenne finance des clips et des rappeurs, mais pas l'école qui pourrait peut-être résoudre en partie ce désir de s'expatrier.
Alors, après là, il nous reste très peu de temps, mais plus un pays se développe, plus sa population peut voyager et peut migrer. Et donc, développer un pays, enfin toute la politique de l'OIM, de l'Union européenne sur la question du développement, qui voudrait dire, bah voilà, si l'Afrique se développe, il y aura plus de migration, c'est faux, c'est tout le contraire.
Eh bien, merci infiniment, Raphaël Kraft, d'être venu nous voir ce soir.
Alors, merci beaucoup.
Je rappelle donc que vos grands reportages sont à écouter sur le site de France Culture, que votre dernier livre, Les enfants de la Clarée, vient de paraître aux éditions Marchiali, et qu'on pourra vous retrouver dans un festival qui se tiendra malheureusement en ligne. C'est le festival Effraction à la BPI au Centre Pompidou. Entre le 25 février et le 1er mars, vous serez en ligne avec d'autres participants. Merci à vous, Raphaël
Kraft. Merci, Kathleen Eva. Au revoir.